Merci pour cette émission, Daniel Mermel. J'ai 92 ans et je repense à tout ce que mes dauphinois ont subi, mes amis dauphinois savoyards. Et c'était très bien de rappeler que ce 4 mai n'avait rien à voir avec toute la douleur que les nôtres ont passée. Merci d'avoir mis au point les choses. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis Jeannette. Et je vous embrasse. Bon courage. Continuez. Au revoir.
Monsieur Mermet, vous êtes un dangereux manipulateur. Mais sachez, monsieur Mermet, que la gauche triomphante n'est plus au pouvoir. Et qu'un jour, peut-être, vous arrêterez de faire de l'anti-France contraint et forcé.
Je viens d'entendre le témoignage de cet ancien résistant qui dénonce l'émission faite sur le plateau des Glières, prétendant que c'est une insulte au drapeau français, etc. J'aimerais dire à ce monsieur qu'il n'a rien compris. À l'entendre parler de propagande, on dirait presque que c'est vous, Daniel Mermet, qui avez orchestré l'événement. Votre émission n'en est que le modeste et génial relais, pour reprendre votre expression, et c'est tant mieux. De plus, ce monsieur doit s'imaginer que les quelques 1500 personnes présentes ce dimanche 13 mai étaient des farfelus, des mauvais citoyens. Eh bien, pas du tout. C'était un rassemblement d'adultes responsables, venus en famille ou entre amis, exprimer une opinion par rapport à une attitude opportuniste du candidat de droite. Ce monsieur doit avoir des pots de saucisson devant les yeux, comme beaucoup de personnes malheureusement.
Bonjour, Jeannette Bottelier à l'appareil, née le 21 septembre 39 à Salange, Haute-Savoie. J'ai écouté votre émission ce jeudi et je ne peux pas vous laisser dire que les maquisards étaient des terroristes. Évidemment, ils utilisaient des méthodes peut-être terroristes parce qu'ils n'avaient rien d'autre comme méthode. Ils étaient traités de terroristes par les Allemands, mais par les Français, ce n'étaient pas des terroristes. Hein? La preuve, c'est que lorsqu'ils ont dû incendier, détruire une grange aux Glières, Tom Morel a écrit au propriétaire de cette grange, qui pouvait servir de lieu de QG de la milice ou des Allemands, et il a écrit une lettre au propriétaire en disant « Gardez cette lettre pour faire valoir vos droits à la libération ». Ça, ce ne sont pas des méthodes de terroristes. Alors attention aux termes que vous utilisez, parce qu'actuellement, terroriste, ça veut dire quelque chose de très précis qui ne correspond pas du tout à l'esprit des maquisards. Voilà, je voulais vous faire remarquer cela. C'est très important pour moi. Merci quand même. Au revoir.
Je m'interroge. Il est tout de même étrange ce terme de terroriste employé par Vichy pour désigner les résistants durant l'occupation lors de la guerre 39-45. En effet, je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec notre époque. Qui sont vraiment les terroristes? Ceux qui sont désignés par ce terme ou ceux qui l'emploient? Voilà, petit clin d'œil à l'ouvrage « Pirates et empereurs » de Noam Chomsky. Voilà, c'était David du 20e arrondissement de Paris. Au revoir, merci.
Eh bien, je suis très content des deux émissions qui sont passées à propos de la commémoration des résistants sur le plateau de Glières. Justement, l'appel qui a été lu dans la première émission, je l'ai trouvé sur Internet et c'est ce qui m'a énormément plu pour accepter de m'engager dans les élections qui viennent sur une liste antilibérale. Et de voir que ça a été repris dans cette émission, ça donne chaud au cœur et ça donne envie de s'engager, sachant qu'il faut vraiment s'unir pour résister. Et moi, je ne suis qu'un simple citoyen, mais j'estime qu'il faut faire quelque chose. Donc je ne sais pas grand-chose de plus qu'un autre citoyen, mais je donne ma bonne volonté, et c'est ce que j'essaye de faire passer dans les réunions publiques que l'on a. Évidemment, je ne suis que suppléant, mais je veux porter témoignage qu'un citoyen de base, je dirais, peut faire valoir ses idées et sa façon de voir les choses. Et c'est ce que j'aimerais qu'il revienne dans le débat politique au sens noble du terme. Voilà, c'était Daniel, facteur dans le Lot.
Merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Au sujet des deux émissions passé sur ce plateau des Glières, sur les témoignages de ces résistants qui n'avaient pas été invités par le candidat Sarkozy. Je voudrais dire à cette auditrice qui nous dit « Vous avez traité les maquisards de terroristes », c'est absolument pas nous, au contraire, bien au contraire, qui les avons traités de terroristes ainsi. C'est ainsi qu'ils étaient, d'ailleurs l'auditeur suivant le disait, qualifiés par le régime de Vichy, et évidemment par l'Allemagne nazie. Et ça, ce terme n'est pas précis, contrairement à ce que vous dites aujourd'hui, qui sont les terroristes, ça veut dire quelque chose de précis. Non, c'est très très imprécis. On a vu souvent des terroristes devenir par la suite des résistants, voire même des gens de pouvoir. C'est un terme flou et avec lequel évidemment il faut être très 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 prudent. Nous, on ne va pas être très prudent aujourd'hui dans cette heure de la Bastille. J'y suis. Vous savez que nous sommes un service public et que la Bastille est toujours soucieux de vous donner des idées, des bonnes idées pour passer agréablement le temps. Et là, vous allez avoir un beau week-end long. Et donc, je pense que l'émission d'aujourd'hui, qui est un grand classique de la Bastille, j'y suis, revue et corrigée, c'est le cas de le dire, corrigée. Va vous donner quelques idées. Ça s'appelle « Ah, quelle belle boîte à outils !» Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la fameuse boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. C'est Thierry de Laringe. Un message pour vous communiquer à la création d'un repère des auditeurs en Haute-Savoie, qui, comme chacun le sait maintenant, fut donc un lieu de la résistance, au Glières notamment. Nous lançons donc un appel à tous les auditeurs de l'émission, Chablaisiens entre autres, à se rendre le mardi 29 mai à Cervant, c'est un petit village entre Annemasse et Thonon-les-Bains, chez Lucienne Bossu, au Bar Fleury, vers 19h30, pour se rencontrer. Et écoutez, ici, il n'y a pas que du pain dans la fondue, il y a aussi du pain sur la planche, donc n'hésitez pas, venez nombreux. Voilà, c'était Thierry de Laringe.
Oui, bonjour. Intéressant le couplet de ce vœu minutieux entendu sur le répondeur et qui fustige ceux qui s'en prennent à ce pauvre Nicolas. Et comme cocasse d'écouter quelqu'un se présentant comme un ancien résistant et prôner la soumission à l'autorité. Mais où sont donc passés ces idéaux? J'espère qu'il ne s'agissait pas d'un de ces résistants de la dernière heure. Un de ceux qui, après 4 années, aplatis devant les bottes germaniques, se sont soudain trouvés une âme de maquisard en entendant au loin les chenilles des chars américains. De ceux qui, n'écoutant que leur seul courage, ont empoigné le vieux casque de pompier de leur grand-père, noué un chiffon rouge en guise de brassard et ont fait mine de régler les circulations au premier carrefour venu. Enfin, quoi qu'il en soit, si cet auditeur s'imagine qu'en défendant Nicolas, il protège l'héritage de Charles, qu'il fasse le compte. Ambition personnelle, trahison, exaltation de l'atlantisme, dénigrement du rôle de l'État, on est loin des idéaux gaullistes. Une fois de plus, nous sommes dévots. Qu'il y réfléchisse. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Anne Rioux. Ah, oh, quelle belle boîte à outils!
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, allez, on peut. Donc on va chauffer le métal au rouge cerise pour écraser le métal, faire arriver. Je vous montre un... Alors voilà, on va faire un assemblage. Saxo ici! Un assemblage par rivetage, comme on faisait il y a 300 ans, hein, sur une partie dure. Après, on allume le chalumeau. Logiquement, on fait ça à la forge, mais là. Là, on chauffe, là. Alors, c'est le système d'assemblage à Tour Eiffel. Hein. La Tour Eiffel est assemblée comme ça.
C'est la même chose que pour la tour Eiffel, vous dites?
Même assemblage, vous voyez, comment on fait.
C'est quoi, c'est un chalumeau, ça?
Un chalumeau. On fait ça en deux temps. Alors, bougez pas. Mettez-vous par là. Première fois, on fait une deuxième chauffe.
Ça sent le brûlé, hein?
Ah ben c'est normal, ça. C'est la ferraille. Alors attention à vous là.
Ça y est, c'est rouge, hein?
Le rivet est fait, vous voyez.
Eh oui, on en trouve encore de ces braves artisans français de notre France profonde, de notre France d'en bas. Cette race d'hommes modestes et fiers de ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire un métier. Des hommes loin de toutes les turpitudes perverses des bobos socialistes et dégénérés. Oui, il y en a encore. Ferronnier, serrurier, un homme qui a monté sa boîte. Et seulement, voilà, cette émission, c'est là-bas, si j'y suis, et je ne vous en dis pas plus. Là-bas, si j'y suis, il faut s'attendre au pire, et le pire est dans le fruit, et même dans le fruit défendu. Vous avez entendu le rivet, l'assemblage, je ne vous en dis pas plus. Et puis cette Anne Rioux, journaliste s'exploratrice. Mais où va-t-on? Ce que je sais, c'est que là où l'on va, c'est pas des fleurs qu'il faut apporter, on apporte plutôt sa caisse à outils. Eh oui, si la serrure de la ceinture de chasteté reste coincée, si le lit monté sur vérin hydraulique pour s'envoyer à 12 en l'air reste en l'air et que c'est dimanche, eh bien, on est content de l'avoir, la caisse à outils. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis même pas ni où, ni comment, ni dans quelle tenue Anne Rioux, journaliste s'exploratrice, et ce Bruno, ce brave serrurier, se sont rencontrés. Lui avec sa clé de 12 et elle avec son mari empalé sur la tringle à rideau. Je ne vous en dis pas plus. Comme dit Woody Allen, non seulement Dieu est mort, mais en plus c'est impossible de trouver un plombier le dimanche.
Mon slip, c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. Mon fer à souder, je ne veux pas qu'il rouille. J'arrive à le caser derrière une de mes pinces. Il me faut un endroit joli dans mon slip. Y a déjà mon zip, oh, je vais trop vite. Quel enfer ce slip, on dirait que ça tend la bite. Mon slip, c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. Je propose des visites, les gens déambulent, le tout Bordeaux s'invite, dans mon slip on s'empiffre, pas besoin de guide, tout le monde se suit, je ne connais pas de bide, de jour comme de nuit, dans mon slip on joue, oui on joue, mon slip c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne, mon slip c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie, je ne veux pas pour mes étrennes, d'un caleçon, mon slip c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne, mon slip c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie, je ne veux pas pour mes étrennes, d'un caleçon en laine.
On a une tête ronde, et on retourne à la tête ronde à l'autre bout. Ça, c'est meilleur assemblage qu'une soudure. Ça ne bouge pas la dilatation. Été comme hiver, ça ne bouge pas.
C'est ça qui fait de votre réputation?
Voilà, c'est de faire des assemblages à l'ancienne, quoi. Ouais. Plus personne ne fait de rivetage maintenant, ou pratiquement plus, quoi. Ouais. Donc, c'est inusable, ça dure 1000 ans. Enfin, ça, des métiers d'hommes, quoi. C'est dur.
Ah, c'est un métier d'homme?
Oh bah oui, il faut quand même remuer des gros marteaux. Hein. Les marteaux font de 400 grammes à 1,5 kg. Hein, donc,
Et vous, ça muscle votre corps?
Oui, ouf. Oui, restons modestes.
Qu'est-ce que ce rivet, il va aller sur quoi alors?
Pour des carcans, pour des porte-boulets, enfin ce qu'on veut quoi. Des menottes également, moi j'ai des menottes comme ça aussi, j'ai Beauvoisson, des menottes anciennes, oui. On peut faire des objets SM quoi.
SM ça veut dire?
C'est un sadomaso, mais bon, j'en propose ce terme là, moi c'est une clientèle comme une autre, et puis voilà quoi.
On dirait jamais, le village où l'on est, c'est absolument charmant, vous entendez ça, c'est un cadre champêtre, les petits oiseaux, ce ciel d'Eure-et-Loir, des endroits où il fait bon aller respirer. Eh bien, c'est là qu'on va aujourd'hui, route du Mal aux Verges. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est vraiment une route qui s'appelle comme ça, dans ce charmant village d'Eure-et-Loir. Et là, eh bien, il y a Bruno qui nous attend, ou plutôt qui attend Anne Rioux. Et vous avez compris que ce garçon, d'une trentaine d'années bien passée, eh bien, il fabrique dans son atelier des ustensiles un petit peu particuliers. On le surnomme le forgeron de Satan.
Voilà un costume traditionnel.
C'est la vraie blouse de travail. Hein?
Le forgeron.
C'est quoi, bleu?
Bleu, oui.
Bleu et tout noir devant, quoi.
Oui, pas forcément, parce qu'on travaille.
Comment s'appelle votre métier?
À la base, c'est d'être ferronnier, chaudronnier, enfin, métallier, tout ce qu'on veut, tout ce qui est rapport métal, quoi.
Ouais. Vous dites à la base, parce qu'après, c'est devenu quoi?
Oh, on peut quand même dire le terme décorateur, hein. Ça serait pas exagéré, hein.
Ouais.
Décorateur en métal, voilà. Ouais.
Ça suffit pour définir, vous croyez?
Bon, décorateur, restaurateur, parce que je restaure également les monuments historiques à Paris. Donc, un client, il veut un rhinocéros, on en fait un en métal. S'il veut un palmier, on lui fait un palmier. S'il veut un avion, je mène un avion. Enfin, voilà, quoi.
Appelons ça, est dans la catégorie nuit.
Oui, bah, je travaille pour des clubs d'échangisme. Donc, on arrive dans les cages, si je puis dire. Une clientèle spécifique. Les clubs de chanisme, ce sont des menottes, des croix de Saint-André, des cages.
C'est quoi les croix de Saint-André?
Bon, je vais vous montrer. De l'autre côté, je vais vous montrer.
Ouais, je me demandais si vous pensiez qu'on était bien habillés tous les deux.
Oui, bien sûr. Je suis fidèle à moi-même.
C'est-à-dire,
ouais. Je suis en blouse.
Et moi?
Ça va, vous êtes toute belle avec un beau décolleté.
Ah oui, le décolleté. On va où?
Au club Sadomaso, SM. Et ce soir, c'est une soirée transsexuelle, je crois, ce soir.
Bonsoir, messieurs, dames.
Vous venez souvent?
Oui, tous les mercredis.
Ouais. Et c'est un lieu unique ici à Paris?
Oui, je pense que c'est le lieu le plus beau et le plus adapté au SM.
Ce que je voulais vérifier, c'était la solidité du matériel.
C'est une pièce un peu cachot. Donc ici, tu as vraiment un cachot avec des ouvertures à différents niveaux, au niveau du sexe, au niveau de...
Sur une porte.
Et la personne reste pendant plusieurs heures, si on veut, attachée à ses chaînes. Voilà.
Vous risquez pas de le casser parce qu'ils font tout là-dessus.
Non.
Il faudrait vraiment trier très très fort. C'est...
On a vu des très gros suspendus sans problème.
Bruno.
Moi?
Oui. Et c'est vous aussi ça qui avez fait ça, ouais?
Oui. C'est moi.
C'est un siège, un très très ancien siège de dentiste qu'on a modifié. On a mis des petits étriers, comme un peu comme dans un gynécologue. Et puis, à partir de là, on peut jouer avec. Ouais. Parce qu'on peut attacher les mains, on peut s'engoder tout seul, là, sur cette espèce de... Bon, à première vue, quand vous rentrez, si vous n'avez pas le fantasme, vous ne pouvez pas comprendre à quoi ça sert. En fait, sur la grosse manette rouge, là, un gommier en plastique, Et ça tient très solidement dans le mur. Donc en fait, la personne fait des tractions avec ses mains et en même temps se fait la mort tout seul.
À quoi sert la boîte de Kleenex, là ?
À s'essuyer.
Dans les idées lubriques, en lui disant, bon voilà Bruno...
Vous êtes le patron du donjon.
Oui, hein? Bruno c'est un artiste, alors donc lui il a le goût, il a le savoir-faire. Bon, moi après j'ai les idées lubriques, donc je commande à Bruno des trucs, mais où il comprend très très vite, parce que j'ai même presque pas besoin de lui expliquer. J'ai dit voilà, je veux un truc comme ça, pouf, Bruno je fais même presque pas de dessin. Il n'y a pas besoin de lui faire un dessin, il a tout de suite compris, donc il me sort un truc d'enfer. Donc c'est là où Bruno est extraordinaire. Quoi, lui il a le goût du médiéval, du comment on pourrait dire, je sais pas, du secret. Quoi, il est capable de nous refaire tout le décor de la conciergerie à Paris. Je suis sûr que Bruno, on lui montre deux photos, c'est fini. Le lendemain, il nous fait un truc. Enfin bon, c'est un petit peu des copies des instruments. Oui. Préhistorique de torture, quoi.
Ah oui.
Bah oui.
Alors ça, c'est Bruno qui l'a fait.
Mais on n'a pas mis les pics dedans. Nous, on le fait soft. Il nous a fait un siège très particulier, là, où toute l'armature, c'est Bruno qui l'a étudié et qui nous l'a fait un truc d'enfer. C'est-à-dire qu'il y a un système mécanique où on met un sexe artificiel en plastique. On appelle ça un Goy Michet. Il est articulé ici, vous voyez, par un petit moteur électrique. Donc, en général, on fait asseoir sa jeune femme au bar. On la fait asseoir sur ce tabouret qui est percé. Et on peut diriger la vitesse de va-et-vient
du coït mécanique.
À l'arrière. Et par contre, on a aussi l'avantage, et ça c'est aussi une idée à Bruno, c'est d'avoir mis une glace en face, de façon à pouvoir voir en même temps les fesses et le visage.
Asseyez-vous. Allez, bouge pas. Asseyez-vous. Il n'a pas bougé, mon bébé. Hein.
Attendez, vous voyez votre chien ?
Mon chien, oui, ça c'est important. Hein.
Pourquoi ?
Bah, question de principe, il est de bonnes origines.
Ah.
Ça s'appelle Saxo. Il est très mignon, il s'appelle aussi Gazou. Il est très mignon. Dis bonjour, mon bébé. Il est surdoué.
Surdoué ?
Ah, oui. Il manque la parole.
C'est un labrador tout noir.
Oui. Ouais. On veut. Allez, essayez-vous.
Et voilà, vous avez compris l'activité de Bruno dans ce village charmant, encore une fois, d'Eure-et-Loire. Décor champêtre, on entend le bruit joyeux du marteau, du ferronnier qui travaille. Et qui travaille à quoi ? Vous avez compris, surtout si pour vous, la roulette du dentiste suscite une érection irrésistible.
Qu'est-ce que vous voulez me montrer ?
Je vais montrer les juments, elles sont très gentilles.
Vous avez des chevaux aussi ?
Donc j'attelle des matériels agricoles anciens. Mmh. Et je fais des semis avec, enfin un peu de tout, quoi. Du fauchage, des récoltes. Ouais. Là, sont costauds mais gentils comme tout.
Ouais. Mais vous avez commencé, vous étiez agriculteur.
Oui, j'ai commencé comme agriculteur, oui. Et puis, j'ai pas réussi à m'agrandir comme je le voulais. Alors, j'avais appris un métier parallèlement à ça. Et puis, j'ai continué mon métier de ferronnier.
De
ferronnier.
Ferronnier, ouais.
Et puis, je regrette pas parce que j'ai quand même des revenus un peu plus conséquents qu'en agriculture. Malheureusement, c'est...
Vous avez pourtant gardé un champ.
Moi, j'ai gardé, oui, une partie de la ferme que je loue, quoi. Voilà, mais...
Non, mais le champ qu'on champs, a
oui,
vu...
J'ai gardé des champs pour m'amuser, oui.
Ah, pour vous amuser.
Oui, c'est pour m'amuser, c'est mon administration dont j'attelle les chevaux, je m'amuse ouais, avec, quoi.
Mais quand ? Parce que vous travaillez pas mal, hein.
Je travaille beaucoup, bah, le peu de temps que j'ai de libre, en général le samedi ou un petit peu pendant les vacances, quoi, un petit peu.
Est-ce que vous prenez des vacances ?
Non, jamais, mais je prends une journée de temps en temps.
Non, jamais de vacances, mais une journée.
Une journée de temps en temps, ça peut être en semaine, un mardi, ça peut être un jeudi, ça dépend comment je suis luné, ça dépend de plein de choses.
Ah oui, donc vous faites du colza pour vous amuser, pour vous détendre ?
C'est plutôt de semer du blé, votre. Plutôt, du blé. Oui, c'est un amusement, oui. On fauche la lieuse avec des matériels anciens d'avant-guerre.
Vous faites ça avec du matériel d'avant-guerre ?
Ah oui. Après-guerre, c'est du récent, ça. Uniquement de l'avant-guerre, oui. Puis là, ça c'est ma roulotte, ça. Alors, quand j'ai une crise, j'attelle la roulotte, je m'en vais.
C'est quoi une crise ?
Un peu de fatigue, ou je me repose un petit peu, je pars 5-6 jours. je mets les juments devant et puis je m'en vais, comme des voyageurs, des gitans, pareil quoi.
Non, sérieux, vous prenez les deux percherons là ?
Oui, puis hop, j'attelle ça en paire et puis je prends la route. Et puis on fait du feu le soir, enfin c'est... Il y a à manger et à boire. Je débranche le portable et puis je m'en vais. Comme ça, on peut pas me joindre.
Ah, en fait, ce sont les clients que vous fuyez.
Oh, oui. Parce que j'ai un peu trop de travail, alors...
Il y a du vent.
Il y a beaucoup de vent, oui. Non, j'ai beaucoup de j'ai trop de travail, alors je fuis les clients. J'en ai largement assez.
Ouais. Mais en fait, et ça marche par bouche à oreille, vous faites même pas de publicité ?
Mon atelier est en liste rouge, le téléphone depuis 15 ans, pour pas que les clients m'emmerdent, quoi.
Vous en avez tellement que vous voulez plus qu'on vous emmerde.
Oui, voilà.
Sinon, il y a quoi ? Il y a pommes, ça, ce sont des pommes ?
Des pommiers, oui.
Des pommiers, et les trucs verts, là, les plantes vertes, c'était là. Des choux, c'est quoi ?
Des choux, oui, des choux.
Ça ? Oui, là, c'est un hangar,
oui.
Où apparemment, vous allez montrer des horreurs.
Oui.
Et là, c'est du chou pour la potée au chou et un champ de pommes, quoi.
Oui, c'est pour des potées au chou l'hiver, c'est bon, ça.
Où est-ce qu'on va, là ?
On va à l'atelier.
Et c'est quoi l'adresse, alors ?
Aux 3 routes de Mal-Auverge.
Non, ça s'invente pas. Mal-Auverge, au pluriel.
Avec un S, oui, pour lui, le S.
Et d'où ça sort, ce nom ?
On ne sait pas, c'est inscrit au cadastre depuis 300 ans environ. On ne sait pas.
On ne sait pas. Voilà.
Voilà, bah, l'intérieur, c'est un atelier traditionnel avec beaucoup de ferraille, de l'outillage.
De quoi vous êtes le plus fier ?
Mon travail en général, quand même. C'est rare que de reproches.
En fait, la pire vexation pour vous, ça serait qu'un client vous dise... pendant nos séances un peu coquines, l'objet a lâché.
Oui, ça m'est jamais arrivé, à part les pertes de clés de cadenas, des conneries dans ce style. C'est garanti à vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah si, une fois, j'ai eu un souci avec un lit qui restait coincé, en hauteur, un lit sur vérin. C'était un lit de 3 mètres sur 3 mètres, et monté sur vérin, puis en haut des glaces au plafond. Et le fantasme, c'était s'approcher le plus près possible des glaces au plafond. Puis de faire joujou, donc ils se voyaient faire des ébats pour plusieurs couples en même temps.
Ah bon ?
Oui.
Bah dites donc, c'est un grand lit alors.
Ah bah les 3 mètres sur 3 mètres, on peut jamais de quelques personnes dessus. Hein. Ouais. Il fallait aussi que les vérins s'arrêtent avant de monter en haut, parce que sinon ils se trouvaient croisés là-haut, c'était un petit peu scabreux. Enfin bon, alors donc j'ai été faire un dépannage, et puis donc plusieurs. C'est le seul problème que j'ai eu au niveau...
Ne me dites pas que les couples sont restés coincés là-haut.
En hauteur, si, autour d'une échelle, ils sont obligés de descendre.
Non.
Bah oui, j'avais des problèmes avec l'hydraulique, avec les vérins.
Vous rigolez, il a fallu les faire descendre avec une échelle, bah, tout
oui,
nu
Bah oui, mais c'est pas un problème, ça. Ouais. Je suis arrivé, il avait encore 2 ou 3 à poil, mais bon, c'est pas un souci. Non, j'ai résolu le problème, mais c'est vrai que là, j'ai eu une tuile, j'ai mis plusieurs fois avant que ça marche. Donc c'est une perte de temps et puis une perte d'argent, parce que c'était un problème de prise d'air dans les vérins.
C'était un problème de prise d'air dans les vérins ?
Oui. Une fuite hydraulique, ça, on est suivi, c'est terminé. Mais quand vous avez de la moquette et des pots de nounours par terre et puis des glaces partout, on ne va pas purger les tuyaux correctement. Quoi. J'ai mis quand même plusieurs mois à résoudre la panne.
Terrible ça, hein ? Vous avez une fuite hydraulique, une prise d'air dans les vérins et voilà, une histoire d'amour qui tombe en loc, hein. C'est ça l'amour forain, l'amour avec des instruments, l'amour avec des outils, l'amour avec de la ferraille, avec des clous, avec des croix, avec des fils de fer barbelés éventuellement. C'est une vieille coutume. Non, ne croyez pas que c'est notre époque qui est particulièrement perverse et dévergondée. On trouve ça depuis toujours, ça s'est toujours... fait, oui, dans tout un tas de cultures différentes, y compris les cultures traditionnelles, on trouve le recours à... Alors des fois c'est beaucoup plus végétal, ça vient de ce qu'on a sous la main. Alors là, bon, bah, aujourd'hui c'est la ferraille, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et il y avait, dans les bordels de la grande époque, dans notre belle capitale parisienne, eh bien, de ces meubles, de ces sièges bien particuliers qui se fabriquaient
Et si ça revient grâce à nos élus, eh bien on verra à nouveau peut-être toute une branche économique se développer. Mais on voit que Bruno a trouvé, sorti de sa campagne, il a trouvé une façon de se recycler. Alors évidemment, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit est à double sens. Si je dis se recycler, hop, vous pensez tout de suite à, eh oui, un vélo sans selle, ce qui est mal parce que on peut très bien ne pas penser qu'à ça.
Ah, je vais quand même vous dégager un petit peu là.
Voilà, j'ai quand même une cage sympa, tout trifté. Hein.
Je montre quand même. C'est une cage.
Attends, vous êtes en train de dégager quoi?
Une cage toute rivetée ancienne, enfin style Louis XI, quoi. Où les gens s'enferment dedans puis font joujou dedans, quoi. Pardon. Il n'y a pas de soudure. Tout est assemblé par, entièrement à dérivé à chaud. Donc, c'est comme on faisait il y a 300 ans, quoi. Des méthodes anciennes de travail.
Et c'est en quoi?
En acier. Oui. En acier.
Mais alors, elle fait combien? Elle fait quoi? Un mètre?
Un mètre. C'est une cage de soumission pour les maris désobéissants, ça. Donc ça fait 1m20 sur 1m20 en carré, plus 1m20 de hauteur. Donc c'est une position à la con. Vous pouvez ni être debout, ni être allongé. C'est des positions à la con.
À la con?
Bah oui, parce que vous voyez bien, à la cage, on peut pas être debout, on peut pas être assis. Enfin, si, assis, c'est tout. On peut pas être allongé, on peut rien faire. Donc, c'était la copie des cachots anciens.
Il y a une porte pour rentrer?
Il y a une porte d'entrée ici, comme en bas.
Ah, on voit pas, hein.
Bah, approchez-vous, comme un passage pour comme faire rentrer un chien, vous voyez.
Ah oui, tout petit, quoi.
Voilà, les gens rentrent dedans à quatre pattes.
Ouais. Mais alors ça, c'est pour faire quoi?
Actuellement, c'est pour une clientèle particulière, comme étant les gens partent en week-end prolongé, ils n'ont pas confiance dans le mari ou de la femme, ils les mettent dans la cage pendant le week-end.
Je me demande si je comprends bien. Ça, c'est une cage dans laquelle on met son conjoint quand on part en week-end et qu'on veut être sûr qu'il ne bouge pas.
Voilà. Ça se pratique dans certains milieux. Et puis, ils mettent une gamelle de pain sec et une gamelle d'eau. Et puis, le week-end se passe. Et puis, ils rouvrent la cage en rentrant le week-end. Puis, ça se vend. Il y a une clientèle pour ça.
Cher?
Non, ça vaut 7000 francs une cage comme ça, c'est bon, correct.
Un peu plus de 1000 euros, quoi.
Oui, moi, je ne me ferai jamais l'euro, après c'est tout. Je suis vieille France.
Ici, Saxo ici. Saxo ici. Là.
Okay. On ferme l'atelier. Boum. J'ai des boulets, là, pour... pareil, quand les clients partent en week-end pour que leur mari se sauve ou les femmes se sauvent. Enfin, c'est pour les maris. Je vais en trouver un beau, là. Attendez, bougez pas.
Ah oui, vous savez où il est, au moins?
Oui, c'est là-dedans. Oui. Bougez pas, parce que là, il y a un moteur de voiture ancienne.
Attendez, ouais. Il faut enlever la selle de cheval, il faut pousser le moteur. Il y a du grillage.
Il y a une table en fer forgé, là, une caisse à munitions, on va y arriver.
Une caisse à munitions, ouais.
Voilà. Alors, vous avez un gros spécimen, là. C'est quand même 90 kilos.
Hein?
C'est un boulet qui fait 90 kilos.
Ah, vous pouvez pas le traîner jusqu'à moi, ouais.
Vous voyez, non, c'est une grosse bête.
Attendez, je m'approche de vous, j'évite le bac à huile.
Ouais. Bah, je vais vous faire une démonstration, tiens. Ouais. Si un jour votre mari vous emmerde, vous allez voir. Il n'y a pas 40 solutions. Hop, vous l'attachez à la patte comme ça, clac, on referme.
Alors vous mettez la chaîne.
Et puis donc le mari, il a ça le week-end à la patte, quoi, il peut pas tellement bouger, quoi. Il faut chercher même pas s'il pèle au petit coin, parce que c'est leur problème. Parce qu'il est soumis, c'est une punition, c'est une des règles du sadomasochisme, des SM, quoi. Et donc, il s'impose des règles entre eux, et voilà, quoi. Bon, pour une fois, ça change, c'est bien, voilà.
Ah oui, alors c'est pareil, c'est le fantasme de l'homme qui est un riche industriel pendant la semaine, voilà, qui commande du monde et qui le week-end est soumis par sa femme.
90% de la clientèle sont des hommes qui sont punis. Voilà.
Et alors vous dites que donc ça, il faut une clé spéciale pour le défaire.
Oui, pour qu'il se sauve. Ouais.
Vous l'avez?
Oui, une fois une cliente avait perdu, elle appelé un matin 2h pour libérer le mari. Alors je suis allé, mais maintenant je n'irai plus, maintenant il attendra 8h comme tout le monde maintenant.
C'est-à-dire que vous étiez à
la campagne,
campagne. Vous êtes remonté sur Paris à 2h du matin.
Pour libérer le mari, oui.
Pour libérer le mari,
oui. Non. Non, sérieux, oui. Alors bon, ça va une fois deux, mais pour 10, hein. Mais 10-15 ans de moins pour se terminer, c'est connerie. Terminé, maintenant, sans qu'à se débrouiller. Je suis tout habitué, il cache tellement les clés qu'il les perd, quoi. Alors en plan, pour les gamins tombent dessus pour la fin de ménage, et puis ça fait dire qu'on perd tout, quoi. Ils ont une Siamétho dans un petit coin, puis voilà. Hein.
Donc vous livrez toujours vos matériels SM avec une Siamétho ou quelque chose, quoi.
Ouais, ils se démerdent, c'est clair.
Combien vous dites de kilos?
Le boulet, celui-là, c'est un gros modèle, il fait 90 kilos. Parce que j'ai eu un problème avec une cliente, j'avais fait un boulet de 30 kilos, puis son mari s'était sauvé avec. Alors elle m'a appelé en catastrophe, il fallait faire un boulet plus gros. Il fallait une urgence pour le week-end suivant. Alors bon, j'ai dû faire couler un boulet en urgence. Elle a payé le prix fort parce qu'il y avait la livraison et puis il y avait du travail comme ça en urgence, quoi.
C'est-à-dire vous livrez, éventuellement il peut se passer quelque chose avec la dame, éventuellement, et puis après vous repartez.
Ah bah non, là, pour un boulet, on fait pas joujou, un boulet. Non, faut pas joujou à tous les coups, hein. Non, là c'est. Ouais. Non, on fait joujou une fois sur 10, hein, c'est pas. Puis vu que j'ai pas trop le temps en ce moment en plus. Ouais. Bon là, c'est pas des objets de grosse valeur, un boulet comme ça vaut 1500 balles. Hein. Bon là-dessus, il y a du délai, hein, faut un an d'attente. Hein.
Non.
Ah oui, j'ai trop de boulot, c'est ça ou rien, ou ils vont ailleurs. Puis comme ailleurs ils trouvent pas, ils reviennent à la charge, quoi.
Mais vous êtes le seul à faire des trucs pareils?
On doit être trois en France à faire ça, oui. J'en vends également en Allemagne et puis en Hollande et puis aux USA aussi, qui sont gourmands, genre de choses là, quoi.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Ça marche sur un fouet, faites gaffe là. Oui.
Sérieux?
Ah, oui.
Un fouet, mais c'est pas votre domaine, le fouet.
Non, c'est parce que c'est une cliente qui a dû le laisser là, ouais.
Et vous avez des modèles de cercueil ici?
Bah oui, là, j'ai le mien qui est là.
Pardon. Comment?
J'ai le mien là, qui est devant vous, là.
Qu'est-ce que vous appelez le vôtre?
Bah, quand je vais clamser, on me mettra dans la caisse.
Non.
Bah, si, j'ai préparé mes obsèques, comme ça c'est clair. La caisse est là, elle est prête.
Alors, c'est là-haut, au-dessus de l'armoire, là?
Oui, il est de qualité, il enchaîne. Donc, c'est pour une personne jusqu'à 1m85. Avec poignée en bronze, c'est de très bonne qualité. L'intérieur est en satin, et en coton et en lin, brodé. Bon, c'est sympa. Voilà.
En satin, coton, mais c'est vous qui avez choisi, évidemment.
Ah oui, j'ai choisi la parure intérieure, oui. J'essayais, hein, tout va bien.
C'est vrai?
Oui, ça me va très bien.
Le bois, c'est toujours chaleureux,
ouais,
de toute
chaud,
façon.
Le bois, c'est chaud.
C'est vrai, c'est joli, le bois, comme ça, c'est. Bon, petit intérieur douillet. Voilà comment. Bruno voit l'avenir, enfin le sien en tout cas. Alors évidemment, vous vous dites, un an pour livrer un boulet, c'est quand même long. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir ce qu'on veut. Une cage, si vous rêvez de mettre une cage ou votre mari pendant le week-end dans une cage, eh ben ça doit être assez long. Alors Bruno raconte aussi qu'il a des clients encore plus spéciaux, c'est déjà pas mal, mais il a encore plus spécial. Quelqu'un qui lui a demandé une guillotine, mais une vraie guillotine. Alors, je dis oui, mais bon, à condition de mettre un frein au bon endroit. Vous voyez, un taquet, quoi, qui arrête au bon endroit. Un autre qui lui a demandé une chaise électrique, mais une vraie. Ah, alors là, il a dit non. Ça peut paraître bizarre, mais une vraie chaise électrique, c'est pas. Il va pas jusque-là. Il raconte des histoires extraordinaires. Alors évidemment, il y a toujours l'homme politique célèbre qui, chez lui, dans sa propriété, organise des parties fines et sévères. Mais évidemment, même sous la torture, Bruno ne nous dira jamais de qui il s'agit. Et évidemment, c'est des choses qui, si on le savait, on vous le dirait pas. Voilà ce à quoi on peut passer ces jours quand on est un honnête ferronnier, serrurier, qui ne cherche qu'à faire marcher sa petite entreprise.
Alors, je remets le pied dans la bassine. Voilà.
Une fofolle, là.
Une fofolle?
Ouais. J'ai pris un lampadaire avec un jouet, vous voyez.
Alors, attendez.
C'est clair quand même, net quoi. Hein.
Ça oui, s'appelle un sexe d'homme érigé avec un abat-jour dessus.
Où a fallu son érection, d'une taille déjà assez conséquente. Oui. Et puis dessus un abat-jour quoi.
C'est en quoi?
C'est en acier. C'est en acier, oui. Et puis, il faut aimer, quoi, c'est sympa. Faut aimer.
Oui, mais j'aime pas l'abat-jour, figurez-vous.
Ce, ah, espèce...
mais ce petit pied de poule sur ce sexe en érection, je... ça va pas.
Ah oui, non, mais elle voulait ça. Bon, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Mm. Donc, je le range, parce que, hors de la vue des enfants, hop.
Alors, vous le refoutez dans le... Vous, bon, le, remet... vous le remettez dans le,
dans,
le,
ouais.
dans le fouillis
dans
ouais.
le fouillis. Et puis, bon, elle sera livrée peut-être cette année ou l'année prochaine, bon, quand j'aurai le temps.
Et elle est... ce sont les mesures du... de la partie intime de son mari?
Ah, son mari, non, il est pas tellement bien monté, apparemment. Non, non, justement, ça doit la faire rêver, ça.
Ça la fait rêver.
Je pense, ouais, je pense.
Ouais. Bon.
Alors, ça, c'est une ceinture de chasteté pour hommes, ça. Alors,
C'est tout petit.
Bah, oui, mais c'est pour le jouer quand il est au repos, hein, c'est pas quand il joue une érection. Hein. Alors, voilà, vous passez ça derrière les testicules, ça.
C'est un, l'anneau, c'est en quoi?
Un anneau en métal doré, hein, avec une inoxydable. Ça, c'est pour mettre la verge dedans. Et puis, vous avez un petit cadenas au-dessus. Donc, logiquement, ça ne s'enlève pas.
Et vous ne faites pas les ceintures de chasteté pour femmes?
Non, j'en ai fait, mais là, j'en ai plus en stock, là. Mm. J'en ai fait. Mais c'est que... pareil, c'est trop d'heures. Alors, j'ai une histoire. On ne va pas passer 15 jours après une ceinture de chasteté. Hein.
C'est trop cher.
Ça coûte trop cher.
Vous l'avez testé?
Non. Non, non, parce que... Non, je ne vous donne ça, non. Non, non.
Et c'est vous, là?
Oui, c'est moi en tenue de forgeron avec bien entouré, que c'est stupide, quoi.
Entouré de femmes nues?
Oui, c'est sympa, ouais.
J'ai cru que c'était des photos de vos femmes, parce que toutes ces femmes en string et... Comment on appelle ça, là? En porte-jartelle, ou complètement à poil, d'ailleurs.
Non.
C'est pas à vous?
Oui, il y en a une, oui. Oui.
La blonde, là.
La blonde à droite, là?
Oui.
Ça a été votre femme?
Oui, entre autres, oui.
Entre autres.
En 3 ans, oui.
Vous avez quand même eu 4 femmes dans votre vie.
Oui, bah oui. Bon, c'est-à-dire que la première femme est partie, elle n'était pas sérieuse, j'ai mal tombé. J'ai tombé sur les femmes adultères au départ, donc c'est pas...
C'est-à-dire qu'elle est partie avec qui?
Un client, tout bêtement. Un client, oui. Elle était, on peut dire le mot, fainéante, et puis la cuisse hospitalière, ça faisait beaucoup de défauts, quoi.
La cuisse hospitalière?
Oui, je l'ai dit, oui. Alors... On a un mot, on appelle ça être cocu. Mais bon, maintenant j'en rigole avec le recul, quoi, mais c'est pas marrant. Enfin, les femmes légères, c'est toujours marrant chez les autres, quoi. Mais chez soi, c'est jamais bien marrant, quoi. Parce que c'est vrai, j'étais pas assez présent peut-être. Enfin bon, dans une séparation, il y a toujours des torts de deux côtés. Hein, je cherche pas à accabler la chose. Et puis après, ça a été Paris, puis après, ça a été les discothèques, et puis le monde de la nuit. Alors, là, j'ai tout vu, quoi. j'ai tout vu. Il y a un côté sympa quand même. Sans me donner de gants, bon, c'est pas partie du métier.
Mais on s'enlace, hein.
On s'enlace.
On s'enlace, mais pour s'enlacer, il faut d'abord y avoir goûté.
Oui, non, bah, à force, bon, bah.
Mais vous avez mis combien d'années à vous lasser, quand même?
Ah, un bout de temps, mais au moins 10 ans. Pas tant qu'on est ferronnier, tout le monde a besoin chez soi d'un plombier ou d'un serrurier. Hein.
Et alors?
Bah, alors, après, on fait un dépannage ou on fait un portail, et puis ça finit par un paiement en nature, enfin, le truc classique, quoi.
Non, sérieux, parce que ça, c'est une légende. Hein. C'est la légende du plombier qui va sonner chez une femme, et la femme est toute nue et lui dit « je vous en prie ».
Un exemple, au début, je faisais ça. Bon, j'étais à Paris, dans un quartier sympa, livré une cage. Bon, en arrivant, monsieur est parti jouer au bridge chez des amis. Madame a ouvert. Bon, en robe de chambre transparente, ça commençait déjà à me mettre dans le bain, quoi. Et puis, j'ai livré la cage, elle m'a remercié. Et puis, bon... À un moment donné, après, m'a payé l'apéritif, on a un peu s'y cassé, quoi. On a bu un petit peu de bonnes choses, quoi. Ouais. Et puis après, elle m'a demandé comment je voulais être réglé. Bon, bah, ça a fini un peu en nature, quoi. Puis j'en crête pas, bon. Puis voilà.
Et justement, là, vous avez fait une croix sur, un travail de combien?
Oh, c'est un travail à 6-7 000 francs, mais bon, maintenant, mais ce chiffre d'affaires global, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas, c'est entre guillemets, c'est quand même pas une cage tous les mois, c'est de temps en temps. Hein. Bon, je pars jamais en vacances, à la limite, ça fait une vacance, une soirée, et puis c'est tout. C'est une soirée sympa, bon, ça coûte un peu cher, mais bon, pff, ouais. Vous savez.
Et ça, bon, comme on dit, ça valait le coup?
Ah oui, bien, bonne tenue au mastic, rien à y apprendre, bien, bien, bien. Non, la femme de 45 ans, qui connaît tout, quoi.
Ah bon?
Oui, il n'y a pas de sujet tabou, tout autorisé.
Vous aviez quel âge à l'époque?
Oh, bah moi j'avais, je sais plus, 32 ans, quoi.
Vous, 32, elle, 45.
Oh, mais c'est rien, ça. Ça ne doit pas, ça.
Et vous avez livré en blouse bleue, comme ça?
Ah oui, en blouse, rasé,
Quand j'avais 18 ans, j'astiquais ma voiture tous les dimanches, pratiquement en costume. Je n'avais rien. Maintenant, maintenant, avec mon camion, ma blouse, ma gueule pas rasée, je lève ce que je veux. Vous voyez, là, on ne comprend rien à la vie. Hein.
Vous levez ce que vous voulez, c'est ça que vous m'avez dit?
Oui, oui, ça me donne une gant. Ouais. C'est peut-être l'expérience ou le milieu qui veut ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, peu de fois que j'étais bien sapé et tout, comme on dit, on fait carpette, on n'avait rien. Et puis, toutes les aventures que j'ai eues, mes femmes les avaient avec mon camion, tout, trois femmes.
Vos trois femmes, vous les avez eues avec le camion?
Oui,
c'est-à-dire, chaque fois.
Je les ai élevées à chaque fois avec mon camion, ma bouse, ma gueule pas rassée. C'est vrai en plus. C'est tout à fait la vérité, voilà quoi. Je suis un peu chauve, mais moi ça m'amuse. J'ai les amis là qui font la dépression parce qu'ils perdent leurs cheveux, moi j'en rigole.
Oh, à peine, hein. Franchement, à peine. Hein.
Oui, facile. Enfin, si. Et puis, non, ils me définissent, bon, je suis ordinaire, mais c'est le charme. Vous avez des gens moches qui ont beaucoup de charme, et puis là je suis un petit peu enrobé en ce moment, mais bon, enfin, mais c'est un petit peu régime parce que là je passe, quoi. Faut pas non plus faire attention. Pour... Oui.
Mais c'est vrai que c'est pas évident de vous imaginer en blouse noircie, on va dire. On va pas dire sale, on va dire noircie. Pas coiffé, pas rasé.
C'est comme ça qu'on l'élève. Hein? C'est comme ça qu'on l'élève, parce que leur mari, il passe un matin une heure dans la salle d'eau, une heure le soir. En plus, elles sont mal baisées, il faut parler clairement. Alors, elles veulent goûter autre chose.
Vous pensez systématiquement qu'elles sont mal, comme vous dites?
C'est normal. En France, il y a 7 femmes sur 10 qui sont mal baisées, ça, il faut le savoir, ça. Il n'y a pas besoin de lire Union, lui, ce bouquin-là.
Mais d'où vous sortez vos chiffres?
Parce que je le sais, c'est des statistiques officielles des rencontres que j'ai faites. Vous avez des très belles femmes qui n'ont pas d'amis ou pas de rapport. C'est monnaie courante. Ça. Plus elles sont belles, plus c'est compliqué à aborder. On n'ose pas, on est tous timides. Et finalement, plus elles sont seules, et plus elles sont chiées, et plus elles cherchent un mec normal pour faire joujou. Des filles qui sont mal dans leur peau, quoi. Ils passent leur temps à faire du jogging, du sport, et puis on sent qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Une femme, en général, vous mettez 5 mois avant de faire joujou avec. Si vous faites joujou avant, c'est pas bon, c'est parce que ça suit pas. Une fois qu'elle est en confiance, ça tombe comme une mouche un soir, ça tombe comme une mouche. Non, c'est vrai. Ouais.
Mais c'est marrant parce que vous dites aussi que vous avez attendu 21 ans pour connaître une femme.
Parce que j'étais dans le milieu agricole, comment dirais-je, tout ce qu'il y a plus, comment dirais-je, pas austère, enfin, bridé, voilà le terme. J'étais élevé dans un milieu clérical, hein, où le clergé était omniprésent. Donc, j'allais à la messe tous les dimanches, et puis, c'était ma sortie, en rentrant de la messe, on allait à la petite messe le matin à 8h30, parce que la grande messe à 11h, on a perdu du temps pour travailler, donc je bossais tout le temps. Et puis, après, j'étais à l'armée dans un milieu assez strict. Et donc, sur rentrant de l'armée, j'ai commencé à fréquenter les clubs hippiques. Ça m'a débridé, entre guillemets, quoi. Mais bon, évidemment, il y a des gens qui ont des rapports à 15, 16 ans et tout, mais ça n'a pas été mon cas. Adjugé, vendu. La bonne bourge, là, qui se fait chier à la baraque, vous arrivez, 9 chances sur 10 pour que ça finisse au plus marre, hein. Enfin, il n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas marrant tous les jours, c'est comme ça.
C'est pas marrant tous les jours.
Non, il ne faut pas plaisanter. Non, il y a des jours, on n'a pas la tête à ça, on est tous pareils, on a tous nos soucis. Hein.
Ouais.
Moi, le premier, ce qu'il faut comme souci, avec mes délais et tout. Donc finalement, je ne fais même pas le tiers de ce que je pourrais faire, même pas. Et puis, bon, c'est bien beau, les belles femmes siliconées, mais c'est pas ça qui fait à manger, c'est pas ça qui fait le lit. Hein.
Ah ouais.
Alors, ça va 5 minutes, tout ça, mais... On aime bien rentrer le soir et puis qu'il y a à manger, à boire, il l'y fait, quoi.
Ah, les femmes blondes siliconées, elles ne font pas le ménage, d'accord.
Enfin, bon, c'est du rêve, ça, mais tous les jours, oui. Quand il faut aller tous les jours au restaurant, où j'ai connu ça, j'ai vécu 3 ans comme ça, où on passait notre temps au restaurant, entre l'onglerie, les UV, et puis bon, ça va 5 minutes, mais on s'en lasse, quoi. On s'en lasse.
Mais ça a dû vous coûter une fortune en plus.
Oh, fortune non, mais enfin bon, c'est pour ça un peu de fortune quoi. Quand vous voyez que ça coûte plus que ça rapporte, faut savoir s'arrêter quoi.
Et comment enfin, plus que ça rapporte, oui.
Bah, non, en termes linéaires, mais bon. Puis maintenant, je suis devenu sage, donc encore une fois, donc je me suis calmé. Oui. Mais bon, j'ai une vie sexuelle tout ce qui est plus ordinaire. J'aime bien les choses simples. Moi, j'aime bien faire joujou dans un lit, hein, un beau lit bien douillé, que de faire joujou dans une cage, mais chacun sait son truc. Hein.
Mais vous avez un petit peu essayé votre matériel quand même, non?
Oui, sur la croix, une fellation, c'était bien fait, là, c'était sympa, ouais. Avec une belle dame, on pouvait demander hier mieux.
Pourquoi vous êtes calmé?
Bon, parce que ça apporte rien de spécial, rien de plus, à part des soucis, des emmerdes. En plus, quoi, alors j'ai pas de dose d'emmerdes, des soucis, puis ça va bien comme ça, hein. Ça va bien comme ça.
Et je peux vous demander avec quel genre de femme vous êtes casé?
Ah, une femme très stricte. Tout ce qu'il y a de plus strict, une femme de grande famille. D'origine noble. Mais bon, je te dis par mon charme et ma gentillesse, puis mon honnêteté, quoi. Je suis arrivé bêtement faire un dépannage pour une serrure.
Je voulais même pas y aller, appelé 4-5 fois pour faire un dépannage, une serrure qui était bloquée. Mais j'ai mis plusieurs mois à séduire madame.
Et elle vous a gardé, quoi?
Elle m'a gardé, parce que je suis plus gentil et sérieux.
Mais
et attentionné,
ouais,
quoi.
Oui, mais attentionné.
Regardez les détails, c'est la voiture le matin, vous vérifiez si les pneus sont assez gonflés. Et puis, c'est son côté détail. Une femme ne regarde jamais les niveaux d'une voiture, ne fait jamais rien, ne regarde jamais ça, tout ça.
Et alors?
Bon, moi, je surveille tout ça, tout ce qui est l'environnement.
Ah, vous surveillez le niveau du niveau d'huile de sa voiture, voilà. Et vous pensez que c'est bon
pour... C'est des détails, mais c'est un détail parmi tant d'autres, quoi. Ouais. Des détails, comme la bouteille de gaz qui tombe un pas de dimanche, moi j'évite, enfin, toutes ces conneries-là, quoi.
Et vous pensez que c'est pour ça qu'elle vous aime?
Ah, bah, c'est une multitude, un ensemble.
Et vous gardez votre blouse de forgeron, là?
Ah non, quand je rentre chez madame, je rentre rasé, bien habillé, on va dîner au restaurant, et c'est comment et vous?
Vous voyez?
Oui, en général, oui. À la base, je suis un homme des bois, j'aime mieux être dans mon environnement avec mon chien et les juments, et puis ma femme le dimanche, et puis voilà, ça va bien comme ça. Ouais. Or, j'ai jamais eu le temps de me marier, je pense venir un jour, peut-être, faut pas désespérer.
Pas une question de temps quand même, hein?
Non, mais ça, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Ça... Enfin voilà, c'est une vie, pas de patachon, mais une vie un peu compliquée, enfin, une vie d'aventurier. Mais bon.
Mais vous regrettez pas, quoi?
Ah, je regrette rien. Rien du tout.
Ah ouais, drôle de musique, hein. Ah bah, si j'y suis pour finir cette semaine et cette heure de ce vendredi, c'était un reportage d'Anne Rioux et nous remercions chaleureusement Bruno et le Donjon. Plusieurs choses à vous signaler. D'abord, Charlotte y tient beaucoup. Un documentaire sonore, Alger Normal, paru aux éditions Françoise Truffaut. Un CD qui accompagne un livre de textes et de photos qui nous montre Alger à travers ses musiques et ses habitants. Et puis un livre d'une chercheuse, essayiste, politique et sociale américaine qui s'appelle Barbara Ehrenreich. Retenez bien ce nom si vous ne la connaissez pas déjà, ce qui est bien possible pour la parution de son livre « L'Amérique pauvre ». C'était en 2004 chez Grasset et elle nous racontait comment ne pas survivre en travaillant. C'était une longue enquête, un peu ce qui ressemble à ce que nous essayons de faire aussi. Elle, c'était sur plusieurs mois à travers les États-Unis. Et là, elle s'attaque à la question des cadres. On achève bien les cadres, l'envers du rêve américain. Et ben, c'est tous ces cadres qui commencent à se demander si ils sont bien à leur place dans ce grand pays qui en fait encore rêver
quelques-uns par ici, et on avait travaillé nous aussi sur ce thème des cadres, les tombées de haut, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces reportages, cœur de cible, Yves, cœur de cible, etc. C'est des préoccupations visiblement voisines. Et puis un autre bouquin qu'on vient de recevoir, que j'ai feuilleté seulement, qui s'appelle « L'homme économique », c'est chez Gallimard Essai, c'est Christian Laval, sur un essai sur les racines du néolibéralisme. Ça a l'air d'être intéressant. Alain Gadan et Céline Bonhomme étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouquet et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistés de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attends vos messages au répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.